Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Peut-on faire confiance à Kim Jong-un ? C'est le débat du jour sur Radio France Internationale. Bonsoir à tous, bienvenue. Deux pas en avant, un pas en arrière, c'est en quelque sorte le rythme des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis ces derniers jours. Kim Jong-un, le jeune dirigeant nord-coréen, âgé de 34 ans au pouvoir depuis 6 ans, a changé sa stratégie avec les États-Unis comparé à son père et son grand-père qui eux aussi ont dirigé ce pays d'une main de fer. Signe d'apaisement entre les États-Unis et la Corée du Nord, il y a une dizaine de jours, la libération de 3 prisonniers américains. Et puis une date, un lieu pour enfin rencontrer de visu son homologue américain Donald Trump, à savoir un hypothétique 12 juin à Singapour. Mais rien n'est encore fait, tant les déclarations des deux parties évolue de jour en jour, avec tout de même un enjeu de taille, la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Alors, jeu de dupes, stratégie de communication politique, et puis pour quels intérêts ? C'est le débat du jour. Et pour en débattre, deux invités en studio ce soir. Juliette Morillo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, historienne, co-auteur du Monde selon Kim Jong-un. Vous vous rendez régulièrement en Corée du Nord. Pierre Rigolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous n'êtes pas le bienvenu en Corée du Nord, c'est vous qui me l'avez dit. Historien, spécialiste du totalitarisme, directeur de l'Institut d'Histoire Sociale et auteur de « Pour en finir avec la Corée du Nord ». Alors qu'il y a encore quelques semaines, Donald Trump et Kim Jong-un s'insultaient, se menaçaient, cette accélération de ces derniers jours, signe d'apaisement de la part du régime de Pyongyang. Tout d'abord, Juliette Morillo, dites-nous d'après vous ce que veut aujourd'hui Kim Jong-un.
Alors là, Kim Jong-un veut ce que la Corée du Nord demande depuis des années, c'est-à-dire plusieurs choses, qu'elle a d'ailleurs en partie obtenues. Un dialogue bilatéral avec Washington, ce qu'elle va avoir à l'occasion de ce sommet. Elle veut la garantie de la survie du régime, c'est ce qui va être au cœur des négociations, éventuellement un traité de paix sur la péninsule, et bien évidemment, derrière tout cela, elle voudrait développer, maintenant qu'elle possède l'arme nucléaire, Kim Jong-un l'a dit, elle voudrait développer son économie et donc obtenir la levée des sanctions économiques et finalement normaliser ses relations avec le monde extérieur.
Pierre Rigolo, vous partagez ce point de vue ?
On peut ajouter que Kim Jong-un cherche à être reconnu comme un chef d'État important sur la planète, et une réunion, une rencontre avec le président des États-Unis le permet évidemment. Je crois que plus important encore, il souhaite être reconnu, ou plutôt que la Corée du Nord soit reconnue comme une puissance nucléaire. Et cette caractéristique est d'ailleurs comprise dans la constitution coréenne. Alors, nord-coréenne, je pense qu'il souhaite d'autres choses. Est-ce qu'il souhaite, par exemple, un traité de paix ? Sans doute, mais on ne se rend pas compte de la difficulté que ça comporte. Je ne parle pas simplement des difficultés d'ordre juridique, mais des difficultés pour deux pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui se sont mutuellement accusés de ne pas être légitimes, si vous voulez.
Alors cet autre signe aussi de bonne volonté là de Kim Jong-un, qui date d'aujourd'hui, des journalistes étrangers triés sur le volet sont arrivés en Corée du Nord pour couvrir la cérémonie de démantèlement d'un site d'essai nucléaire. L'histoire ne se répète-t-elle pas ? Il y a déjà eu des mises en scène de démantèlement de sites nucléaires nord-coréens, Pierre Rigolo ?
Oui, je me souviens en effet d'avoir vu à la télévision la chute d'une cheminée de refroidissement à Yongbyon. C'était en 2007 ou 2008. Et on sait que quelques mois plus tard, la situation était nettement moins bonne, et que en 2009 nous avons eu une explosion, un essai nucléaire de la Corée du Nord.
Vous y croyez là quand ces journalistes se déplacent et sont invités par le régime, Juliette Rigolo ?
Moi, je pense qu'ils ne vont pas voir grand-chose. De facto, toutes les façons, on va détruire une montagne avec le site nucléaire. Ils ne verront pas grand-chose. Par contre, on peut s'interroger en effet sur la sincérité de la Corée du Nord et sur sa volonté de dénucléariser. Et ça, c'est quand même la première étape. Et je pense que la Corée du Nord est en effet sincère dans sa volonté de dénucléariser. Mais toutefois, il faut s'attacher néanmoins aux termes précis des déclarations de la Corée du Nord qui ont été un petit peu grossies par la presse de façon enthousiaste, c'est-à-dire que la Corée du Nord, on revient à ce qu'on disait au début, a promis une dénucléarisation à condition qu'il y ait des garanties de survie du régime, et d'autre part, elle a promis, lors de la déclaration de Panmunjom, le 27 avril dernier, à l'occasion de laquelle le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré Kim Jong-un au Nord, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont promis de s'atteler à la dénucléarisation de la péninsule. Et c'est là, c'est dans les mots que se cache le diable. Péninsule, ça veut dire Nord et Sud. Alors la Corée du Nord va dénucléariser, mais il faut aussi que les États-Unis fassent des gestes. On parle ici du parapluie nucléaire américain, éventuellement de sous-marins nucléaires, etc., de présence américaine. Donc ça va aller des deux côtés.
Pierre Rigolo.
Oui, la recherche d'une dénucléarisation est extrêmement difficile et on comprend que le dialogue est peut-être poussé pour un peu plus loin, encore que au fond les deux dirigeants seront là pour marquer qu'une étape est franchie. Les discussions ont déjà commencé avec Pompeo, le secrétaire d'État. Bref, il y a des discussions qui sont en cours actuellement. Et si on entend dire ici ou là, ben il est peut-être pas sûr que ça se tienne le 12 juin, c'est qu'il y a des difficultés. Pour revenir à ce qui est l'enjeu, c'est la dénucléarisation. Mais dénucléarisation, en effet, ça signifie des choses clairement différentes pour la Corée du Nord et pour les États-Unis. La Corée du Nord semble en effet entendre par dénucléarisation au sud le retrait du parapluie nucléaire américain. Quant aux Américains, eux, ils veulent quelque chose, disent-ils, d'irréversible et de vérifiable. Vous voyez qu'on est loin d'une discussion facile.
Alors Kim Jong-un passe souvent pour un despote, voire un fou, mais finalement, est-ce qu'il n'abat pas ses cartes diplomatiques assez habilement, Juliette Morillot ?
Je pense qu'en fait, les dirigeants nord-coréens sont éminemment rationnels. Quand je dis qu'ils sont rationnels, je n'exclus pas la notion de danger, bien évidemment. Mais c'est tout sauf des fous. C'est-à-dire, depuis des années, ils jouent finalement sur une sorte de statu quo international qui fait, pour aller très vite, que les États-Unis avaient besoin de se maintenir, ont besoin de se maintenir dans cette partie du monde face à la montée en puissance chinoise. Vous avez quand même 30 000 soldats américains au sud du 38e parallèle. Vous en avez à Okinawa. Vous en avez à Guam, aux Philippines. Donc, ils ont besoin, face à la montée en puissance chinoise, d'être dans cette partie du monde. Là, diplomatiquement, la Corée du Nord avance ses cartes en premier. À l'occasion du discours du Nouvel An, Kim Jong-un a tendu la main à la Corée du Sud et a déclaré d'abord qu'il avait terminé son programme nucléaire. Il n'a pas dit qu'il allait l'abandonner. Il a dit que c'était terminé et que maintenant, il passait au volet économique. Donc, en effet, il mène le jeu diplomatique et apparaît, il ne faut pas négliger le côté intérieur, il apparaît également pour son peuple, d'une part comme le défenseur du pays contre l'ennemi américain, mais aussi comme celui qui va apporter la paix et qui obtiendra ce que son père et son grand-père n'ont jamais obtenu, un dialogue en direct, d'égal à égal, comme le disait Pierre Rigoulot, avec le dirigeant américain.
Aujourd'hui, d'après vous, qui de Donald Trump ou de Kim Jong-un mène les négociations, Pierre Rigoulot ?
Oh, écoutez, je crois que ils étaient d'accord pour se rencontrer. C'est effectivement au moment de la fin de l'année dernière et au début de cette année que Kim Jong-un semble avoir, je dirais, changé d'attitude. Mais je me souviens que en 2017, en mai et en juin 2017, Donald Trump a proposé En effet, qu'ils se rencontrent. Il a dit, je me souviens, vous connaissez la formule, que toutes les options étaient sur la table. Alors la presse, un petit peu pressée, en a conclu qu'il n'y avait que les frappes contre la Corée du Nord. Il y avait aussi d'autres solutions, qui étaient en particulier une rencontre en bilatéral avec Kim Jong-un. Il a même dit, je me souviens, j'avoue que j'en étais choqué, qu'il serait honoré de rencontrer Kim Jong-un et discuter naturellement de cette question de la dénucléarisation.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Avec ce soir Juliette Morillo, journaliste, historienne, spécialiste des deux Corées, Pierre Rigolo, historien, directeur de l'Institut d'Histoire Sociale. Alors, dites-nous si ce sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un a lieu le 12 juin prochain. Dernière déclaration en date, Donald Trump affirme ce soir qu'il prendra la semaine prochaine sa décision sur la tenue ou pas de ce sommet avec le dirigeant nord-coréen. Dites-nous de quelle manière ces deux dirigeants pourraient sauver la face. Quoi qu'il en soit, Juliette Morillo.
Alors, c'est important pour les deux dirigeants. Je pense que chacun y gagne quelque chose et que chacun a envie finalement que ce sommet se passe. D'une part, Donald Trump, on a même évoqué un prix Nobel pour lui. Il en a besoin d'un point de vue politique intérieur. Et également, Kim Jong-un a besoin que ce sommet finalement le hisse à cette image de chef d'État. Alors, pour sauver la face, la dénucléarisation. Les États-Unis, comme l'a dit Pierre Rigoulot, veulent une dénucléarisation immédiate et vérifiable. Ça va prendre très longtemps.
Irréversible,
excusez-moi. Et immédiate. Ça va prendre très longtemps. C'est-à-dire qu'en dehors de cette spectaculaire destruction du site d'essai nucléaire qui aura lieu aujourd'hui ou demain dans le nord du pays, vous avez d'autres sites d'enrichissement de l'uranium. Il va falloir autoriser également les inspecteurs de l'AIEA à aller en Corée du Nord. Vous avez un stock de têtes nucléaires déjà existant. Donc, le chemin est extrêmement long. Alors, qu'est-ce qui pourrait sauver la face pour les deux, finalement? Probablement une sorte de moratoire momentané qui se poursuivrait, des essais balistiques et bien évidemment nucléaires. Peut-être s'atteler, en effet, à un traité de paix sur la péninsule, ce qui serait quand même, pour les Nord-Coréens, quelque chose de très bien et à l'honneur de Kim Jong-un. Et peut-être obtenir ce que la Corée du Nord demande aussi, c'est-à-dire l'établissement de relations diplomatiques avec les États-Unis. Alors, on n'en est pas à une ambassade américaine à Pyongyang, mais peut-être une mission locale à Pyongyang qui permettrait finalement aux deux protagonistes d'apprendre à se connaître et d'avancer sur le dossier.
Pierre Rigolo.
Oui, je pense qu'en effet, une des solutions d'avancer dans une situation bien difficile serait de progresser sur cette question du traité de paix. Mais je souligne que la chose est plus difficile que je le croyais au début. Je veux dire par là que la Corée du Nord, elle est quand même dans une position de combat. J'appelle ça une posture obsidionale, c'est-à-dire la forteresse assiégée, entourée d'ennemis, etc. Et voilà que Séoul, que le gouvernement de Séoul, que ceux qu'on appelle les marionnettes, n'est-ce pas, des États-Unis, eh bien, il faudra les reconnaître comme pouvoir légitime sur une moitié du pays. Il y a là quelque chose qui est difficile aussi bien pour le Sud que pour le Nord.
Juliette Morillo.
Alors là, ça fait partie de choses dont j'ai discuté avec les Nord-Coréens. Alors, ils ont une vision assez utopique au lendemain d'un traité de paix. Eux, ils envisageraient une sorte de fédération sur la péninsule. Grosso modo, un pays, une péninsule unique avec deux régimes. Alors, c'est un petit peu ambitieux, mais pour eux, ce qu'ils veulent avant tout, c'est reprendre des relations économiques avec la Corée du Sud, lever la chape des sanctions, continuer à avoir des zones, notamment de coopération économique, militaire, dialogue militaire entre les deux pays, des véritables relations avec le voisin sud-coréen. Mais il est évident que si les États-Unis ne sont plus la menace permanente qui finalement cimentait le peuple nord-coréen derrière son dirigeant, Et ça va rendre les choses un petit peu plus difficiles.
Pierre Rigolo.
Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de fédération. On a quand même deux systèmes politiques qui sont tellement différents sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, que je vois très mal comment on pourrait s'associer sur le plan d'une fédération. Et puis, je trouve que Juliette est très... optimistes en ce qui concerne l'avenir. Au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agirait en tout cas de, notamment, et ça serait une des raisons d'échapper à l'échec complet de ces rencontres, il s'agirait finalement de donner à la possibilité au Nord d'avoir une aide des États-Unis en particulier pour améliorer sa situation économique. Alors en somme, il suffit de braver les lois internationales, de braver les interdits du Conseil de sécurité, d'avoir une bombe nucléaire pour ensuite la négocier et d'avoir la possibilité d'une aide économique. Moi, j'avoue que j'espère que ça ne se fera pas. La Corée du Nord étant un état totalitaire, j'espère bien qu'on ne les aidera pas, que les États-Unis ne l'aideront pas à colmater les brèches de leur système et finalement à trouver les moyens de d'aider une population qui est dans une misère épouvantable si l'on lit les rapports de l'OMS et de la FAO.
Vous n'êtes pas forcément d'accord.
Alors non, je précise simplement que la Corée du Nord ne soumet pas sa volonté de dénucléarisation à une aide économique américaine, que bien évidemment on peut lire les rapports, mais je me rends en Corée du Nord régulièrement, l'économie s'est rétablie, alors on ne vit pas en Corée du Nord comme on vit en Chine, bon, certes,
pourquoi ces rapports
mais
de
l'économie
la FAO ment.
Je pense qu'il y a une volonté de ne pas voir ce qui se passe en Corée du Nord également. La Banque de Corée du Sud a elle-même dit qu'il y avait
Nord,
eu
a priori, il les, y avait les fonctionnaires
une,
de la
FAO. Laissez-moi juste terminer. A dit qu'il y avait une progression économique et je pense que il y a eu une croissance économique l'an dernier en Corée du Nord et la Corée du Nord cherche finalement un petit peu sur le modèle chinois. Je dirais je comparerais ça aux années 80 en Chine, cherche finalement une sorte de d'ouverture économique, vous avez une sorte d'économie libérale qui est en train de s'implémenter en Corée du Nord, sans bien évidemment, comme le modèle chinois, perdre le pouvoir entre les mains du dirigeant nord-coréen et avec un parti unique. Mais cette sorte d'ouverture à la chinoise est ce qu'envisagent actuellement les Nord-Coréens.
Oui, moi je me réjouis pas à l'idée que pourrait se requinquer, se renforcer grâce à l'aide américaine, un état totalitaire où vous avez des camps de concentration, des exécutions publiques, l'absence de droits d'information libre ou de circulation à l'intérieur même du pays. Je ne souhaite pas que ça se fasse. Voilà.
En guise de conclusion, Pierre Rigolo, peut-on faire confiance à Kim Jong-un ?
Le problème de la confiance, je ne suis pas d'accord sur la façon de poser le problème de cette façon-là. On a deux ennemis politiques qui sont en train de discuter. Il n'y a aucune raison qu'ils se fassent confiance et c'est normal d'ailleurs. Vous citiez d'ailleurs, vous avez dit deux pas en avant, un pas en arrière, c'est le titre d'un livre de Lénine et vous savez que ce qu'a dit Lénine à ce sujet, c'est que il n'y a pas en politique de possibilité de faire confiance. Celui qui croit sur parole est un imbécile.
Juliette Moriot.
Moi, je dis simplement qu'il faut que ce dialogue se poursuive et que l'isolement de la Corée du Nord n'est pas une solution.
Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat sur Radio France Internationale. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci donc à nos deux invités. Juliette Moriot, journaliste, historienne, co-auteure du Monde selon Kim Jong-un, aux éditions Robert Laffont et de la Corée du Nord en 100 questions. Merci également à vous, Pierre Rigolo, historien, directeur de l'Institut d'Histoire Sociale, spécialiste du totalitarisme, auteur de Pour en finir avec la Corée du Nord. À la mise en onde, aujourd'hui, il y avait Valentin Vaner. Merci également à Florence Ponce, Emmanuel Sevin, Romain Ozoui et Benoît de Solmignac, sans qui je n'aurais pas pu faire cette émission. Rendez-vous demain où nous nous interrogerons sur une toute autre question. Emmanuel Macron manque-t-il de fermeté avec les puissants de ce monde ? Les débats du jour sur RFI sont également à retrouver sur nos réseaux sociaux. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. À demain.